The better part of the man is soon plowed into the soil for compost. By a seeming fate, commonly called necessity, they are employed, as it says in an old book.
Vous écoutez Book and Choose, le podcast de la bonne littérature, et je suis Tara Lenhardt. C'est l'histoire d'une Française partie habiter au Canada pour suivre un cursus de creative writing, ou écriture créative, et qui livre ici un premier recueil de nouvelles publié aux éditions Le Cartanier, éditeur indépendant québécois. Sarah Ananda Fleury, avec les nouvelles qui composent Western Spaghetti, fait entendre les voix singulières de drôles de personnages. Des hommes, des femmes, des ados, des petits vieux qui forment une galerie à la fois drôle et touchante, humaine et décalée. Il y a par exemple cet artiste d'origine kabyle qui voit ses plans d'avenir bousculés par le 11 septembre, une ancienne danseuse qui retrouve les souvenirs de sa jeunesse à Montréal, un ado dont la mère s'éprend d'un prêcheur de foire ou encore un vieux cow-boy qui vient révéler un secret à un ami de longue date. Ce sont des situations extraordinairement quotidiennes que décrit Sarah Ananda Fleury, toujours située à la bonne distance. Elle parvient à dérouler ses histoires très visuelles, avec à la fois un esprit américain et un sens de la psychologie très français. Cet équilibre, cet amour de la nouvelle, Sarah Ananda Fleury va en parler dans un instant. Bonjour Sarah, on va parler ensemble de Western Spaghetti, publié aux éditions Le Cartanier. Avant de parler de ton livre un petit peu plus avant, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens? Parce que le peu qu'on aperçoit dans ta biographie montre un profil plutôt éclectique, pays, métier, on dirait presque plusieurs vies. Voilà, qui es-tu, Sarah Ananda Fleury?
Alors, je suis française, je suis née au Mans, j'ai grandi au Mans dans des ateliers de peinture, puisque mes parents étaient peintres, et j'ai vraiment grandi dans un univers justement éclectique, pour reprendre ta formulation, c'est-à-dire un mélange de... Voilà, d'artistes, de cité HLM, d'écoles bourgeoises, de vraiment un mélange, un joyeux bordel, on va dire. Et puis, très vite, je suis partie à l'étranger juste après le bac. Je suis partie un peu sur un coup de tête. Je n'étais jamais allée en Amérique du Nord de ma vie. J'avais un petit peu voyagé, mais vraiment, ça se limitait aux pays européens, éventuellement le Maghreb, mais voilà, en tant que touriste. Et puis un jour, j'étais dans la rue, j'étais jeune, et j'ai rencontré des gens, des jeunes qui étaient québécois, et ils m'ont parlé du Québec. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas y aller? Les études françaises ne me tentait pas vraiment. Et donc, je suis partie vraiment comme ça sur un coup de tête avec pas mal d'audace parce que je connaissais personne à Montréal. Et donc, voilà, j'ai fait mes études là-bas. Ensuite, j'ai voyagé pas mal en Amérique du Sud avec le sac à dos. Et puis, je suis rentrée en France il y a quelques années, après avoir étudié, travaillé longuement au Canada dans le milieu de la recherche universitaire. Mmh. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui, j'enseigne à Paris. Voilà. Et puis, alors qui je suis, je ne sais pas quoi dire d'autre que ça. Mais on va dire que dans mes études, il y a une petite pointe un petit peu atypique. J'ai fait tout mon premier cycle de, on va dire, jusqu'à la licence à distance parce que je voyageais partout et j'avais absolument pas envie de rester sur les bancs de l'école. Et en revanche, j'ai fait un master d'écriture créative. À l'époque, ça se faisait pas du tout en France. Alors, il y en a quelques-uns maintenant. Ouais. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi je suis allée à Montréal. C'était pour poursuivre ce master à l'UQAM d'écriture créative et qui a été en fait vraiment un levier et puis un point de départ pour l'écriture du recueil en fait, que je publie aujourd'hui. Voilà.
C'est ça un petit peu qui t'a amené à écrire justement le cursus d'écriture créative ou creative writing, où tu avais quand même déjà une idée en tête, déjà des textes, des envies registre sur soi.
Un genre de la nouvelle. Je pense que ça s'est imposé très, très vite. J'étais déjà tombée amoureuse du genre de la nouvelle, on va dire à l'âge de 20 ans. Enfin, j'ai un souvenir très précis du moment où j'ai lu vraiment une nouvelle pour la première fois. Enfin, je pense que j'avais dû en lire avant à l'école, notamment genre Maupassant, Lorla, enfin, ce genre de choses, ou éventuellement Poe, ou enfin, Garland Poe, ou voilà, ce genre d'auteur, mais j'ai un souvenir très précis En fait, j'étais en Argentine, à Cordoba, dans une chambre toute miteuse avec des cafards géants, des cucarachas, là, et j'étais super malade. J'avais une fièvre terrible, et j'ai un ami canadien, anglophone, qui est écrivain également, qui, me voyant malade, m'a apporté une anthologie de la nouvelle, la short story américaine. C'est des anthologies qui sont très connues comme ça, qui rassemblent plein d'auteurs, des pontes de la nouvelle américaine, et dont je l'ai ouvert au passage. Et c'est vrai que j'avais pas beaucoup de... Comme j'étais malade, j'avais pas beaucoup de... de faculté de concentration, donc le format de la nouvelle convenait parfaitement, et donc je suis tombée sur la première nouvelle que j'ai lue, et c'était une nouvelle de Carver, je pense, et puis dedans il y avait également, je sais plus, John Cheever, il y avait Hemingway, enfin Salinger, enfin tous les grands noms du genre de la nouvelle. Et je me rappelle que cette première nouvelle de Carver, ça m'a fait l'effet d'une bombe. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, ce genre-là. Je ne connaissais pas, parce que pour plein de raisons. Pourtant, je connaissais déjà plutôt bien la littérature américaine, anglophone. Mais je n'avais jamais lu vraiment de nouvelles jusqu'alors. Et j'ai savouré cette anthologie rassemblant les meilleures nouvelles nord-américaines vraiment comme une boîte de bonbons, quoi. C'était vraiment, chaque nouvelle était différente, avait une saveur, une identité complètement différente. C'était vraiment une merveilleuse découverte. Et après, je pense que j'ai voulu assez rapidement écrire des nouvelles, mais ça, j'ai mis quand même du temps, puisque j'ai 38 ans, donc c'est pas tout jeune, j'ai mis du temps à trouver quand même une façon d'écrire des nouvelles, c'est-à-dire dans le sens de vraiment de storytelling américaine, enfin vraiment dans le sens raconter une histoire, raconter un personnage, mais avec une voix française. Et ça, c'était pas simple, parce que de la même manière que les nouvelles nord-américaines à lire en français sont souvent décevantes, enfin, moi je trouve, soit parce qu'elles sont mal traduites, soit parce que ça passe pas finalement, les écritures très, très arides, très sèches de Hemingway ou même de Carver, ça passe parfois difficilement en français. Et donc, j'ai mis vraiment du temps, plusieurs années, à trouver une voie, à trouver quelque chose qui soit au carrefour d'une voix française que je porte, puisque je suis française, mais aussi du genre vraiment de la nouvelle, qui est vraiment celui de « Ok, asseyez-vous, je vais vous raconter une histoire, c'est très subtil, j'essaye en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer ». Asseyez-vous, c'est presque magique comme ça. Et voilà, j'ai mis un peu de temps.
C'est vrai qu'en France, la nouvelle est mal vue, peu représentée. Bon, même s'il y a quand même beaucoup de gens qui en écrivent, on est quand même très loin de la qualité, comme tu disais tout à l'heure, du storytelling, qui est un petit peu l'essence de la nouvelle anglo-saxonne et plus particulièrement américaine. Et ça se sent d'ailleurs à la lecture de ton recueil que tu cherches et trouves un équilibre entre ce que tu viens de dire, ce regard français, et quand même la culture américaine. C'était vraiment ta volonté, en fait, d'arriver à cet équilibre et à incarner un peu les deux. Bon, c'est pas une question d'hémisphère là, mais les deux côtés de l'océan.
Oui, moi je trouve qu'en fait la différence, elle se situe presque de manière géométrique, enfin géographique en tout cas, ou historique, parce qu'en fait quand on regarde la figure du roman ou la littérature française, c'est très vertical, c'est vraiment, on écrit avec le poids des écrivains qui nous ont précédés, on écrit avec une histoire très forte, avec une histoire littéraire, historique et puis évidemment socio-économique très forte. Et c'est vrai que l'Amérique, dans le sens un peu imaginaire comme ça, c'est un territoire horizontal. Donc c'est vraiment l'espace qui doit être découvert. C'est vraiment, c'est s'approprier un territoire, c'est s'approprier l'espace. Et je pense que c'est pour ça que la nouvelle, aussi bien en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord d'ailleurs, a autant de succès là-bas. C'est parce que la nouvelle a permis, dans ce sens, de raconter des histoires, de s'approprier un territoire. On se racontait au début des histoires qui n'étaient pas écrites dans des livres, qui se racontaient de feu de camp en feu de camp, de campement en campement, ou
région, oui, côté oral, comme ça.
Voilà, exactement. Et donc ça, c'est vraiment des histoires qui voyagent et qui ont cette portée-là. Et c'est vrai que de concilier ce domaine, cette écriture verticale du soi, de l'intime, de quelque chose de très français, et puis en même temps quelque chose d'un peu plus horizontal, épique, lié au territoire, à l'espace des États-Unis, c'était un challenge, ouais. Mmh. C'était pas forcément évident. Je sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, c'était vraiment ça que je cherchais. Et puis, oui, pour reprendre ta réflexion sur le genre de la nouvelle. En France, c'est vrai que c'est un genre. La nouvelle en France, c'est un genre. Suranné, un genre désuet, qui n'a pas forcément une très bonne réputation parce qu'on la connaît très mal. On a souvent tendance à la cantonner à un espèce d'exercice de style, d'atelier d'écriture dans une MJC au deuxième étage sous un néon voilà.
Le placo du plafond qui tombe là.
Voilà, c'est non, mais il y a un côté un petit peu comme ça de sous-genre ou de sous-roman, comme si ce n'était pas un genre à proprement parler, alors que pour moi c'est un genre qui vraiment à part entière, comme le roman ou comme la poésie par exemple, ou le théâtre. Et c'est vrai qu'en France c'est pas du tout considéré comme un genre, c'est d'ailleurs, ça se publie très peu. Il y a très très peu de maisons d'édition qui publient des nouvelles. En général, les recueils qui sont publiés le sont parce que ils ont été écrits par des noms déjà reconnus, et donc on sait que peut-être les ventes ne vont pas être si catastrophiques. Je sais.
Et puis, des gens qui savent écrire, puisqu'ils ont écrit des romans avant, donc des vrais écrivains et des vraies écrivaines, pas des gens qui vont écrire des nouvelles.
Oui, mais c'est traître parce que finalement, alors moi j'en ai lu quand même pas mal des recueils de nouvelles français, et alors il y en a qui sont excellents, hein, je vais pas...
Oui, oui. Non, il y a de
mais
très très bons.
En général, je reste quand même beaucoup sur ma faim. En général, je dis pas que j'ai la recette. Non, 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 pas du tout. Mais je trouve que en général, même les grands écrivains, les grands romanciers français, quand ils s'attaquent à la nouvelle, y a un côté. Alors pas tout le temps, mais souvent ça ressemble des fois à des récits, ou alors c'est vraiment des nouvelles à chute ou fantastiques. Il y a un côté presque gadget. Qui pour moi s'éloigne de ce que j'aime le plus dans la nouvelle nord-américaine.
Et ce que tu aimes le plus, c'est justement ce storytelling dont tu parlais, cette manière d'emmener le personnage, de l'emmener complètement ailleurs en quelques pages.
Oui, et en même temps, non. En fait, en même temps, non. Je crois que ce que j'aime le plus dans la nouvelle, c'est la part d'invisible. C'est-à-dire que quand on lit un roman, on s'assoit dans un roman, on s'installe dedans. On déménage parfois même dedans. Les personnages deviennent des amis, enfin voilà, une famille. Et c'est d'ailleurs, c'est formidable quand ça se passe. Hein.
Oui.
Mais dans la nouvelle, on ne peut pas vraiment faire ça. Évidemment, il y a des personnages plus attachants que d'autres, mais on ne peut pas s'asseoir dans un roman, dans une nouvelle, dans la longueur, comme on peut le faire dans un roman. Donc, c'est vraiment... c'est tout en subtilité, est-ce qu'il y a une part d'invisible, c'est-à-dire qu'on lit la nouvelle, on sait qu'il se passe quelque chose, tout n'est pas dit, il y a beaucoup d'indices, enfin il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qui sont lors de l'image d'Hemingway de cet iceberg avec une partie immergée et puis une partie au-dessus de l'eau, comme ça on sent qu'il y a vraiment la partie immergée de l'iceberg dans une nouvelle, elle est là, elle est puissante, mais nous on ne voit que ce qui est visible au-dessus de l'eau. Et je crois qu'une très bonne nouvelle, c'est difficile d'en trouver parfois, hein, mais une très très bonne nouvelle, c'est un peu comme un poème. On referme le livre, on tourne la page, et il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui reste accroché, comme une empreinte. Oui. Et pour moi, une nouvelle, c'est ça. C'est vraiment une empreinte dans une espèce dans une intimité, quelque chose d'un rapport à soi très profond. C'est ce que j'aime le plus, je crois, dans les nouvelles. C'est vraiment la part d'invisible qui ouvre quelque chose à l'intérieur de soi qu'on n'avait pas vu venir, on ne sait pas forcément d'où il vient, mais il est là, il reste. Et il a éclos vraiment quelque chose.
C'est une jolie définition, je trouve, et qui est unique, parce que j'ai jamais entendu quelqu'un parler de la nouvelle, en tout cas en France, en ces termes, et avec justement cette sensibilité qui se retrouve, j'ai trouvé, là on est dans une certaine subjectivité, j'ai trouvé dans tes textes, dans les textes qui composent ton recueil, avec justement ce côté... où tu embarques tes lecteurs dans un univers qui est d'autant plus inconnu que tu es une Française qui écrit de la nouvelle qui se passe très souvent à l'étranger. Donc, tu t'aventures sur le territoire américain, mais sans jamais justement singer les grands noms du genre, sans jamais les copier, avec toujours cette sensibilité. Et on sent aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qui sont tues ou par les ellipses, etc. Et j'ai trouvé que dans ton recueil, Western Spaghetti, donc, ça se retrouvait pleinement, avec beaucoup d'humour aussi.
Oui, bah, l'humour, c'est bon, on écrit avec ce qu'on est, hein, donc forcément, je pense que le tragicomique, c'est quand même quelque chose qui me définit en tant que personne, qui définit ma vie aussi, et qui forcément s'insinue dans ce que j'écris. Mais oui, dans ce recueil-là, je pense que... C'est un recueil... Enfin, les nouvelles qu'il compose sont quand même assez longues pour des nouvelles. C'est quand même des nouvelles qui sont assez longues dans ce sens. Je pense que c'est un peu justement le côté français. Et puis, elles sont toutes écrites au jeu. Donc ça, c'est vraiment aussi un récit de un dialogue interne, un monologue, un récit de soi. Et c'est vrai qu'elles ont la particularité... Alors moi, je ne m'en étais pas aperçue, hein, mais parce que forcément, quand on écrit, on ne cherche pas à se décortiquer. Mais elles ont toutes un personnage central enfin elles sont toutes très très différentes, c'est-à-dire que
c'est une vraie galerie, quoi.
Oui, voilà. Et moi, j'aimais beaucoup l'idée de pouvoir rentrer dans la vie et dans la peau, dans la langue de personnages très différents. Comme un monsieur âgé, comme un enfant au Canada qui traverse dans un pick-up les territoires canadiens, une danseuse, moi qui ne fais absolument pas de danse, voilà. J'ai des personnages comme ça qui ne me ressemblent pas du tout et qui pourtant sont quand même évidemment des projections de ce que je... enfin voilà, de moi-même, je pense.
Mais on reste, je ne sais plus si c'était Balzac ou Maupassant qui avait dit qu'il était dans chaque servante ou dans chaque personnage qu'on croise entre deux pages quand on lui demandait si jamais il était, il s'impliquait dans ses personnages. Et je n'arrive pas à me souvenir duquel des deux grands noms a répondu qu'il était chaque personnage, mais même si jamais ce n'était pas lui, évidemment.
Donc. Oui, je crois que c'était sur Emma Bovary, en fait, où il avait dit Emma Bovary, c'est moi.
Oui, on a le Flaubert avec Emma Bovary, c'est moi. Bon, là, effectivement, voilà. Il a cassé un petit peu le game de Will voilà. L'écrivain.
Voilà, donc c'est un peu la même chose avec Bovary ou avec d'autres personnages, effectivement. Hein, je pense que les écrivains sont toujours. Mais ces personnages-là, je pense, c'était aussi une façon de c'était un peu. Moi, je les appelais ma sentinelle, enfin, mais un peu des gardiens de phare autour de moi aussi, qui étaient comme une famille aussi un petit peu recomposée ou des personnages que j'avais pu creuser parce qu'ils m'interrogeaient aussi dans leur vie et puis dans ces moments vraiment qui sont très particuliers et que j'essaye d'explorer puisqu'en général les nouvelles se passent à des moments bien précis où ils se passent où ils sont au précipice de quelque chose, ils sont au précipice d'eux-mêmes ou au carrefour de plusieurs chemins.
Oui. Oui, c'est jamais une situation linéaire et monotone, en tout cas dans tes textes qui sont vivants, dynamiques, où il y a un mouvement, en fait, même si ce sont des situations parfois un peu plus touchantes, qui sont décrites, un peu moins décalées, il y a toujours ce mouvement, j'ai trouvé à la lecture de ton recueil. En combien de temps, à peu près, est-ce que tu as écrit ce recueil et surtout, comment s'est fait le choix des nouvelles est-ce que c'est toi, ton éditeur, un travail commun? Comment ça s'est passé l'aspect alors, un petit peu cuisine interne de l'écriture. Ouais.
Je pense que, alors, les nouvelles, je pense que ça s'écrit de manière assez. C'est un peu comme les poèmes. J'ai écouté une interview de Ocean Vuong qui a écrit On Earth We Briefly Gorgeous. Alors, je ne sais plus ce que c'est le titre en français.
J'ai oublié.
Un bref instant de splendeur.
Oui, c'est ça.
Un bref instant de splendeur, oui. Et qui disait qu'il est poète à la base et il écrivait peut-être un ou deux, trois poèmes par an et c'était très bien comme ça. Et en général, c'est vrai que les poètes, c'est souvent, ils écrivent deux bons poèmes par an et ils sont déjà contents quand deux poèmes, c'est déjà bien.
Oui, voilà. Surtout s'ils sont bons. C'est quand même beaucoup.
Oui, voilà, c'est ça. Surtout s'ils sont bons. Et je pense que la nouvelle, c'est un petit peu pareil. C'est un peu pareil. On ne peut pas se lancer dans un recueil de nouvelles de la même manière qu'on se lance dans un projet d'écriture de roman. C'est pas la même c'est pas la même archéologie, c'est pas le même souffle, c'est pas du tout c'est pas possible. Donc les nouvelles, je pense que les premières nouvelles que j'ai écrites, c'était la première, je pense que c'est celle alors éponyme, donc qui s'appelle Comme dans un western spaghetti. Et je pense que j'ai dû l'écrire il y a peut-être 7-8 ans.
D'accord.
Et ensuite, j'ai dû en écrire à peu près deux par an. Le livre est terminé presque complet, on va dire, depuis 2 ans, 3 ans. Et puis, c'est vrai que la sortie a été décalée à cause du Covid et puis du travail d'édition aussi qu'on a voulu faire sur le livre. Je n'ai pas le souvenir, en fait, d'avoir sélectionné des nouvelles. C'est-à-dire, je n'ai pas le souvenir d'avoir... de m'être dit, bon, celle-là, on ne la met pas parce que ça ne va pas, ou celle-ci plutôt que celle-là. C'était vraiment... Je crois que les nouvelles étaient telles quelles dès le départ, si je me souviens bien. Je ne suis pas sûre, mais je crois. Je sais que la dernière que j'ai ajoutée, c'était la première qui est aujourd'hui dans le recueil.
D'accord.
Et qui est celle qui me ressemble le plus, en fait, aujourd'hui. Dans mon écriture. Donc, je pense que oui, ça s'est fait sur plusieurs années et le travail d'édition a été pas long et compliqué, plus qu'autre chose, je pense, mais c'était vraiment difficile de, à chaque fois, se replonger dans un univers.
Oui.
C'était comme des mini-romans, quoi. Donc, c'était vraiment... on devait tout checker, voilà, pour que ce soit les faits, ce soit correct, que ce n'y ait pas de... Et c'est vraiment à chaque fois un univers complètement différent où il fallait reprendre son souffle et retourner dans le travail de correction, d'édition, de relecture, de réécriture aussi. Je réécris beaucoup. En général, je ne suis pas de celles qui écrivent d'un jet, puis c'est fini, enfin, trois fautes d'orthographe et c'est bon.
Oui, alors ça, je ne sais pas si ça existe en vrai, c'est une légende qui dit qu'il y aurait des écrivains et des écrivaines comme ça. Je ne sais pas, je n'en ai pas rencontré encore, mais ça doit exister, comme les dodos.
Je sais pas. Non, mais chaque... C'est vrai que moi, je réécris beaucoup et puis je réécris beaucoup les personnages aussi. Je creuse vraiment comme une sculpture, quoi.
Oui.
Et il y a même des nouvelles qui n'étaient pas du tout centrées sur ce personnage-là et qui ont complètement basculé. Je pense à, par exemple, la nouvelle qui s'appelle Mohamed Adé. Au début, c'était pas du tout ce personnage-là qui devait être le centre de la nouvelle, et par un truchement, un accident, on va dire, pas littéraire d'ailleurs, un accident de vie, ça s'est fait comme ça.
Mais c'est donc un travail, voilà, particulier, où c'est pas la vision qu'on peut avoir parfois, que la nouvelle étant plus courte à écrire, elle est plus facile entre guillemets. C'est un peu une idée reçue là aussi. Il y en a beaucoup autour de la nouvelle.
Non, c'est assez terrible. D'ailleurs, justement, ce que je voulais dire, c'est que je voulais mettre une autre nouvelle, en fait, dans le récit, dans le recueil. Donc, une nouvelle, un texte. Je ne sais pas si c'est une nouvelle, mais c'est un texte. Écrit il y a à peu près un an et demi. Et puis, pour m'apercevoir que c'était vraiment... Déjà, c'était très long, c'était 80 pages, et que c'était le début d'un roman, ouais. Et que donc ça ne convenait pas dans le recueil. Et alors, je dis pas qu'écrire un roman c'est facile, hein, loin de là, mais je pense que vraiment écrire un recueil de nouvelles, c'est vraiment ça a des difficultés qui lui sont propres et qui sont vraiment pas évidentes du tout à
affronter, dépasser, anticiper.
Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à quelque chose, justement, qui des petites histoires ou je ne sais pas, comme ce que je lisais, qui semblait si facile dans les recueils d'Alice Munro ou de Dennis Johnson ou de ceux que j'admire dans ce genre-là, mais en fait, non, j'ai découvert que c'était extrêmement difficile et, et voilà, et c'est très difficile.
Et tes projets actuels et futurs, quels sont-ils? Est-ce que tu peux en parler? Est-ce que tu vas choisir la facilité et le roman ou continuer dans
Je
ne
sais pas si c'est la facilité, je ne sais pas si c'est la facilité du tout. J'aimerais bien écrire un roman juste parce que mon sujet est on va dire trop vaste pour pouvoir être cantonné à la nouvelle, voilà.
D'accord.
Pour cette simple raison. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai un projet de roman, voilà, où j'ai à peu près une petite centaine de pages pour le moment et où j'aimerais bien continuer sur cette lancée. Après, je sais pas, on est toujours un peu, on a toujours peur de, voilà, que ça ne se fasse pas. Donc, je veux pas trop non plus m'avancer et puis dire oui, c'est sûr, je vais l'écrire. J'aimerais beaucoup quand même parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est très, alors là, c'est vraiment, on peut pas faire plus bateau et cliché que ça. C'est sur ma mère, sur mes parents, puisque moi, j'ai perdu mes parents très tôt et donc, du coup, c'est vraiment c'est surtout sur ma mère qui était peintre et puis qui a eu une vie assez atypique et puis très solitaire aussi dans la création. Et, Et j'aimerais beaucoup parler de ça, justement, des femmes qui peinent, des femmes aussi, enfin, moi, j'ai grandi justement avec ma mère qui m'élevait seule, et j'ai grandi aussi avec toutes les femmes qui l'entouraient, ses amies. Et donc, j'aimerais vraiment parler de l'amitié féminine et de cette sororité-là. C'est un peu un mot à la mode, mais c'est quelque chose d'important pour moi. Donc, je pense que ça va être. Mon prochain projet, on va dire mon prochain roman, voilà.
Ben c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Je trouve pas que ce soit un sujet bateau. J'aurais hâte d'avoir ce roman entre les mains, un roman sur les femmes écrit par une femme et sur les femmes artistes en plus. Oui. C'est une belle ambition, je trouve.
Oui, non, je pense que c'est assez clair pour moi, de toute façon, que oui, je j'ai envie de l'écrire, et puis il y a beaucoup de choses, voilà, toute une histoire un peu farfelue, avec aussi un peu d'humour derrière, comme tu parlais d'humour tout à l'heure, oui. C'est vrai qu'on parlait d'humour un petit peu, et c'est vrai que ce côté un peu loufoque ou la comédie dans le drame, ou le drame dans la comédie, je ne sais pas. C'est vraiment un peu une ligne de conduite, ou enfin une ligne d'écriture en tout cas, qui me définit. Voilà. Je ne sais pas si dans le recueil de nouvelles, enfin j'espère avoir essayé de commencer à traduire ça aussi dans le recueil de nouvelles. C'est vrai, cette histoire de, enfin cette idée de parce que les personnages du recueil sont parfois vivent des choses un peu tragiques, ou des moments, oui, quand même assez difficiles. Mais bon, ça, c'est vrai que c'est dans les œuvres littéraires que moi j'apprécie, notamment Grace Paley et d'autres, c'est vraiment quelque chose que j'aime infiniment, cette joie dans voilà, cette joie qui pointe un peu
les difficultés, oui. Bah, c'est à découvrir dans Western Spaghetti aux éditions Le Cartanier. C'est donc écrit par Sarah Ananda Fleury. Merci pour cet échange, Sarah.
Merci beaucoup.